La plume.
La plume.
La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde
de la faune sauvage Cosona. La plume. La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage Cosona.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Sainte-Afrique. Nous avons le plaisir de rendre audible le retour de l'émission La Plume en compagnie de Monsieur Ostruy, directeur du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage Cosenar. Pour cette nouvelle édition, Monsieur Ostruy, vous souhaitez parler de la biodiversité animale.
Oui, effectivement. Bonjour.
Bonjour.
Déjà enchanté d'être parmi vous. Alors c'est vrai que la biodiversité, c'est quelque chose d'assez abstrait. Souvent, on a du mal à l'interpréter, parce que c'est quelque chose qui est à la fois très, 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 très vaste et qui peut être interprété différemment. Je crois qu'on peut quand même retenir la définition qui est le plus souvent utilisée au niveau mondial, puisqu'elle concerne à la fois le local, mais surtout le mondial et la planète. C'est l'ensemble des êtres et écosystèmes dans lesquels ils vivent est principalement lié aux interactions entre l'air, l'eau potable et la nourriture. Alors finalement, c'est tout ce qui nous entoure et qui vit et grâce auquel nous vivons aussi. Nous faisons partie de cette biodiversité, c'est évident.
Monsieur Ostruy, pouvez-vous nous préciser à quoi et à qui sert cette biodiversité ?
Alors, cette biodiversité, effectivement, elle concerne les plantes, l'eau, l'air, les animaux, les sols et les mers. Et finalement, elle est indispensable à l'homme. L'eau, je crois que tout le monde le sait, de l'eau et de l'eau de bonne qualité, c'est indispensable. L'air, évidemment, aussi. Pour ce qui est des sols, il est évident que les sols sont eux aussi indispensables à l'espèce humaine. Puisque c'est grâce à eux en particulier que vivent les espèces. Sans sol, il n'y a pas d'espèces, sauf dans les mers, bien sûr. Donc c'est en fait protéger cette biodiversité, c'est évident que c'est aussi protéger l'homme, puisqu'il en fait partie.
Donc on est d'accord que son rôle est vital dans notre existence et dans l'existence animale et végétale.
Il est indispensable, puisqu'en matière, par exemple, d'agriculture, la pollinisation par les insectes est indispensable, surtout au niveau de tout ce qui est arbres fruitiers. S'il n'y avait pas d'insectes, il n'y aurait plus d'arbres fruitiers, c'est reconnu, à moins qu'on arrive à faire ça manuellement ou mécaniquement, mais on n'est pas encore au top pour faire ça à l'échelle de la planète. Par rapport à la nourriture directe aussi, puisqu'on utilise bien souvent à travers le monde des animaux pour se nourrir. Et donc là aussi, que ce soit des animaux d'élevage ou des animaux sauvages, ils sont indispensables à l'homme. Et puis nous avons tout ce qui est la nourriture indirecte, puisque ce sont ces différents organismes qui servent de nourriture à d'autres animaux qui, eux, nous sont très utiles. Donc, effectivement, c'est toute une chaîne et cet ensemble de composants qui font la biodiversité. Peut-être une précision aussi par rapport au rôle de la biodiversité. Je crois qu'elle a été, au fil des siècles, une inspiration pour la recherche, notamment grâce aux êtres vivants et aux animaux, puisque que ce soit les poissons qui à l'origine ont été un petit peu imités pour faire des bateaux dans les premiers temps, que ce soit pour les avions qui ont imité les oiseaux, ou que ce soit pour les plantes qui sont elles aussi très utiles en matière de médecine. Donc ce sont aussi la biodiversité a permis à l'homme de progresser dans les recherches grâce aux êtres vivants, qu'ils soient plantes ou animaux. Pour ce qui en est des types de menaces, alors je crois que elles sont maintenant clairement identifiées. Il s'agit avant tout de l'effondrement ou de la disparition des populations d'espèces, alors que ce soit donc les plantes ou les animaux. Et il y a effectivement les interactions entre les différents milieux, puisque les habitats qui permettent à ces espèces de survivre sont aussi pris en compte dans la biodiversité. Même si on peut considérer qu'ils sont inertes, ils forment un tout. Donc, il s'agit effectivement de l'air, de l'eau. Il y a les milieux naturels, puisque ce sont des milieux qui ne sont pas, on va dire, utilisés intensivement par l'homme. Il y a aussi les milieux artificiels. Alors, les milieux artificiels, ça peut être des secteurs agricoles cultivés, ça peut être des forêts exploitées. Et puis après, dans les types de menaces qui pèsent aussi sur cette biodiversité, ce sont les risques liés aux pollutions. Qu'elles soient le plus souvent faites par l'homme, mais ça peut être aussi parfois des pollutions naturelles. Il y a aussi la surexploitation, la surexploitation des ressources naturelles, et là aussi, c'est pas à l'échelon local, mais à l'échelon de la planète, qui effectivement est une menace terrible pour le maintien de la biodiversité. Et puis il y a les changements climatiques, mais qui sont aussi une conséquence par rapport aux atteintes qui sont faites à la biodiversité. Et puis enfin, il peut y avoir aussi les espèces dites envahissantes, quand il s'agit de milieux naturels ou d'espèces. Alors là, il y a peut-être un paradoxe, c'est que certaines de ces espèces peuvent engendrer des catastrophes. Hein. On le sait, par exemple, les termites. Les termites sont arrivées en Europe et maintenant, elles n'ont pas des catastrophes, mais des dégâts importants. Il peut y avoir aussi des espèces de plantes qui sont, pour des habitats qui ne sont pas appropriés, mal adaptés, et qui vont donc dominer sur d'autres espèces, voire les éradiquer. Mais il y a aussi parfois des bonnes surprises. Je pense en particulier à une espèce envahissante qui est l'écrevisse américaine qui a envahi nos cours d'eau, mais qui, de notre côté, est aussi la cause de la progression et de la non-disparition d'une autre espèce importante, qui est la loutre, puisque cette espèce envahissante est désormais devenue la proie principale de ce prédateur carnivore. Alors donc, il peut y avoir aussi donc, ces espèces qui sont parfois des espèces qui apportent quelque chose et d'autres qui éliminent.
Et la biodiversité est-elle en danger ?
Alors oui, elle est en danger, effectivement. Et
pourquoi ?
Je crois que le principal problème, il est maintenant bien connu, c'est le développement à l'infini des populations humaines. Puisque l'accroissement des populations fait que l'homme consomme et va consommer de plus en plus. Et le mode de vie de ces populations actuellement est incompatible avec la survie de la nature, tout simplement parce qu'à un moment donné, il y aura une limite où on consommera tellement que finalement, c'est l'homme qui risque de disparaître. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire tout cela ? Eh bien, en fait, ce constat, il est pas nouveau, malheureusement, hein, puisqu'il y a en particulier des grands auteurs qui sont des auteurs cultes en la matière. Je pense en particulier à une femme qui s'appelait Rachel Carson, qui vivait aux États-Unis, et qui, en 1963, vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, a écrit un livre qui est remarquable, qui s'appelle « Printemps silencieux ». Ce livre décrit en gros l'histoire de la mise en place de l'agriculture intensive aux États-Unis, avec en corollaire la disparition des haies, l'utilisation massive de pesticides et d'engrais. Et donc, ce livre démontre que 10-15 années plus tard, au niveau de la biodiversité, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pratiquement plus d'oiseaux, pratiquement plus de plantes naturelles. Donc ça, c'est pas nouveau. Elle avait lancé un cri. C'était Printemps silencieux. Ça voulait très bien dire ce que ça... Que le titre était très, très éloquent. Parlant. Et puis nous avons plus près de nous un homme aussi qui s'appelle Jan Dorst. Alors Jan Dorst, ça a été... Un des responsables du Muséum d'histoire naturelle en France, mais c'est aussi le vice-président de la commission de l'Union internationale de conservation de la nature. Alors déjà, en 1966, lui aussi, il a écrit un livre qui s'appelle « Avant que nature meure ». Et ce livre, eh bien, déjà, il plaidait alors en faveur d'une réconciliation entre l'homme et la nature. Ça, c'était en 1966. Ben, 50 ans après, le constat, malheureusement, il est accablant. En 2019, et sous l'égide des Nations Unies, il y a 450 experts du monde entier, des scientifiques, qui ont contribué à l'état des lieux, à l'échelle mondiale, à un état des lieux. Donc, ils ont examiné 15 000 dossiers. Et puis, ils ont analysé les menaces d'extinction au niveau des espèces, que ce soit des espèces végétales ou autres. Alors, quelques chiffres, je ne veux pas... Mais bon, c'est quand même important. Hein. Ils ont considéré que par rapport au siècle précédent, en 50 ans, demi-siècle même, ce sont 1 million d'espèces végétales et animales qui ont disparu ou qui sont menacées. 40% des amphibiens à l'échelle de la planète, 33% des mammifères, c'est quelque chose d'énorme, 10% des insectes, 10% d'oiseaux, et alors pour ne parler que de ça aussi, parce que ce sont des milieux très, très privilégiés, 33% des récifs coralliens à l'échelle de la planète.
Que peut-on faire pour la sauvegarder, cette biodiversité?
Alors, déjà, il fallait peut-être dire pourquoi elle est en danger.
Oui.
Je crois que pour ce qui est des causes aussi, ces scientifiques les ont analysées très précisément. Et alors, il existe en fait des causes qu'on peut qualifier de directes et puis des causes indirectes. Pour les causes directes, celle qui ressort à chaque fois, c'est l'explosion démographique. Un accroissement de leur population exponentielle et qui pose problème et qui finira par poser de très gros problèmes. Et ce qui en découle de cet accroissement démographique, c'est un accroissement de la consommation, bien sûr. Et à partir de là, aussi un gaspillage des terres et des ressources. C'est un évident. Pour les éléments clés par rapport à ce qu'il faudrait éventuellement faire, ce groupe de scientifiques considère qu'il faudrait faire tout simplement un changement d'usage de la terre et des mers. Et pas seulement à l'échelle locale, voire nationale, voire à l'échelle d'un continent, mais à l'échelle de la planète. L'exploitation directe de certains organismes ou leur déplacement hors de leurs habitats naturels devrait être encadré, régulé et planifié. Les pollutions, bien sûr, il faudrait essayer de les faire disparaître. Et donc, il faudrait vraiment prendre en compte... Et on y arrive, on commence. Les espèces et leur utilité dans le cadre de cette biodiversité. Par rapport à la biodiversité, je dois dire que, tout à fait au départ, j'ai même précisé ce qui, pour ces scientifiques, représentait la biodiversité, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants et leurs habitats dans lesquels nous vivons. Alors, je dois dire que c'est pas pareil pour tout le monde, parce que, par exemple, si on prend notre service qui est maintenant le service de l'environnement, avant c'était le ministère de l'Environnement, maintenant c'est l'Office français de la biodiversité. Alors, ça a changé de nom, je sais pas pourquoi, mais ce qui me gêne un petit peu, c'est que lorsqu'on va sur le site du ministère, dans cette définition de la biodiversité dont tout le monde entier s'accorde à dire que c'était la bonne. Alors, sur notre site du ministère, on trouve, je cite précisément, « La biodiversité est une bibliothèque de connaissances et d'innovations technologiques comme la biométrie. » Alors là, je vous avoue que quand j'ai lu ça, je suis resté perplexe et j'ai beaucoup de mal à comprendre. À moins que le ministère de l'Environnement français ne s'achemine... vers des chemins de traverse que j'ai du mal à suivre. Donc je tenais à le dire parce que je l'avais oublié et ça me paraît important pour la suite. Donc pour pouvoir agir pour sauvegarder cette biodiversité, il faut bien sûr agir au niveau mondial, au niveau européen, français et local. C'est à tous les niveaux qu'il faut agir. Il faut mettre en place des outils de protection et de gestion. Alors ça commence à se faire au niveau des pays, surtout au niveau des pays en voie de développement. Ces outils de gestion, ben, ce sont déjà des lois. Alors c'est vrai qu'avant on avait l'excuse. Je pense qu'au début du siècle, l'homme ne pouvait pas dire concevoir qu'il allait autant influencer la survie de cette biodiversité. Bon, actuellement, ce n'est plus le cas. Depuis les années 70, on a commencé à comprendre qu'effectivement, tout ce que nous faisions avait une incidence sur ce qui nous entoure. Donc, à partir de 76, pour ce qui est de la France, on a commencé à mettre en place des mesures de protection, déjà dans un premier temps par rapport aux espèces. On ne considérait pas les habitats. Ces espèces, elles ont parfois été prises en compte aussi dans le cadre d'accords mondiaux, comme la Convention de Washington, qui permet d'éviter le trafic de certains animaux sauvages. Et puis, petit à petit, là aussi, on a évolué grâce aux connaissances, mais les gouvernements se sont aperçus qu'effectivement, si on agissait sur les espèces directement, ce n'était pas suffisant, il fallait aussi préserver leurs habitats. Donc, on a mis en place, à partir du moment où on avait la connaissance du territoire, toute une série de mesures qui permettent maintenant d'avoir des moyens de gérer les espaces et de faire ou de ne pas faire certains aménagements techniques ou importants. Donc ça, c'est tout un cheminement, ça se met en place tout doucement, tout doucement. Malheureusement, ça ne va pas toujours très vite et c'est compliqué. Et puis, il y a tous les engagements qui sont pris par rapport à la préservation de la nature en général. Et ça touche, bien sûr, la biodiversité. Je pense à une chose qui a l'air de rien, mais c'est vrai que plus on en parle, et grâce aux médias, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, et plus on arrive à motiver les gens. Et je me rappelle, il y a 40 ans, notre cheval de bataille en tant qu'association de protection de l'environnement, c'était éviter que les gens qui se promenaient en forêt jettent des déchets partout. Mais ça, c'est une bataille qui, mine de rien, a été gagnée, puisqu'il y a très peu de gens maintenant qui jettent des déchets en forêt ou dans les sentiers de randonnée et tout. Et à côté de ça, bien sûr, les collectivités ont accompagné, puisqu'elles ont souvent installé des systèmes qui permettent de récupérer ces ordures. Donc, ça, c'est le bon côté des choses. Je crois que lorsqu'on explique et lorsqu'on dit pourquoi, on arrive à avancer.
Donc nous allons poursuivre après la petite pause musicale. Bonne écoute.
Na 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 na
Nous reprenons l'antenne toujours avec la première émission de La Plume 2021. Monsieur Ostruy, nous sommes en région Occitanie, sur le territoire aveyronnais. Existe-t-il parmi nous en fait un effondrement de la biodiversité ?
Alors, l'effondrement de la biodiversité, bon, il est général, c'est évident. Mais c'est vrai qu'on peut l'observer aussi, on va dire, dans la région. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a certaines espèces qui ont presque disparu. Je pense en particulier à les hirondelles. Je crois que les hirondelles, tout le monde en a conscience. Il y en a de moins en moins. Alors, c'est vrai que là aussi, c'est particulier, puisque c'est un animal qui est un oiseau qui est un oiseau migrateur. Et donc, à partir de là, il est soumis à beaucoup plus de dangers qu'une espèce qui est sédentaire. Lors de ces migrations, les risques de mort, entre guillemets, sont beaucoup plus importants qu'une espèce sédentaire. Ces hirondelles, moi, j'ai bien vu, par exemple, puisqu'il y a très très longtemps, je baguais les hirondelles pour le Muséum d'Histoire Naturelle, ça c'était dans les années 60-70, en particulier dans la vallée du Tarn, hein, sur des secteurs où maintenant il y a beaucoup de cerisiers. Et alors, ça commençait juste à l'époque, et il y avait des hirondelles dans tous les villages, que ce soit à Gessac, La Cresse, Rivière-sur-Tarn, etc. Et alors, lorsqu'on y va maintenant, eh bien, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup moins. Et c'est vrai qu'on pratique une culture qui oblige à parfois utiliser des produits qui ne sont pas toujours les meilleurs pour les hirondelles. Il ne faut pas oublier que les hirondelles se nourrissent d'insectes. À partir du moment où on détruit ces insectes, il peut y avoir d'une part une absence de nourriture pour ces hirondelles et parfois même une chaîne d'intoxication, puisque les insectes qui sont plus ou moins intoxiqués peuvent aussi intoxiquer par cumulation les animaux qui les mangent. Donc il est évident que dans un secteur comme ça, c'est flagrant, et il y a beaucoup moins d'hirondelles. Mais c'est aussi généralisé, puisque c'est pareil dans des petits villages où il n'y a pas de culture ou d'agriculture intensive, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup moins. Certaines espèces ont pratiquement disparu aussi. Je pense de nombreux insectivores. Hein, nombreux insectivores, ce sont en général les plus touchés. Mais dans les zones où il y a une agriculture qui est accompagnée, on va dire, à l'aide de produits qui ne sont pas toujours naturels, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup moins. Et puis, nous avons aussi toute une série d'animaux qui étaient des animaux stépiques. On appelle stépiques, ce sont les pelouses qui recouvrent nos causses. Et effectivement, ces pelouses ont tendance, lorsqu'elles ne sont plus exploitées par les brebis à l'état naturel, puisque maintenant la plupart des troupeaux de brebis sont cantonnés avec des clôtures électriques, et ne percent plus dans toutes les zones des cosses, mais on s'aperçoit que la végétation arbustive naît sur ces zones. Après, c'est une végétation avec des arbres qui poussent naturellement. Bref, c'est cette pelouse qui disparaît, et donc c'est une modification de l'habitat. Et à partir de là, il y a aussi une modification, voire la suppression de certaines espèces qui y vivaient et qui sont remplacées par des espèces un petit peu plus arbustives, ou remplacées par rien du tout lorsqu'il s'agit d'espèces de pins ou de conifères, puisqu'on le sait, le milieu forestier en matière de pins ou de sapins est particulièrement pauvre au niveau du sol.
Donc, Monsieur Ostruy, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Je l'ai précisé au début de l'émission, donc vous étiez directeur du Centre Régional de Sauvegarde sur Millau. En quoi votre centre est-il concerné par cet impact sur la biodiversité ?
Alors, je crois qu'on est en fait au cœur de cette biodiversité, puisque si on prend notre activité depuis maintenant 35 ans, eh bien, nous recueillons des espèces d'animaux qui sont donc en danger. Ces animaux, nous les traitons pour les relâcher dans la nature. Et je crois qu'on est là au cœur de la biodiversité, parce que dans l'esprit de la plupart des gens, lorsqu'on parle biodiversité, ils pensent avant tout aux animaux, mammifères et oiseaux. les insectes arrivent aussi, les plantes arrivent aussi, mais c'est dans l'esprit des gens, ce qui frappe en premier, ce sont effectivement tous ces animaux. Donc à partir de là, c'est quelque chose de très important. Et puis en plus, c'est vrai que les animaux, d'une façon générale, sont à la fois les vecteurs, et puis ce sont aussi des animaux qui parlent le plus. En matière d'atteinte à la biodiversité, c'est souvent ce qu'on prend à témoin. Donc, à partir de là, il est tout à fait normal que notre structure, qui récupère des animaux en difficulté et les remet dans la nature, on peut dire que même si c'est symbolique à l'échelle régionale, voire nationale, contribue effectivement au maintien de cette biodiversité, surtout lorsqu'il accueille des espèces qui sont rares et pour lesquelles il suffit souvent de la disparition de quelques individus pour arriver très proche de l'anéantissement de l'espèce. Donc, quelques chiffres là aussi. Ben, depuis 1985, notre centre il a accueilli plus de 9500 animaux. Et ça, c'est à la date de ce matin. J'ai vérifié les chiffres avant de partir. Donc, c'est pas rien. 178 espèces différentes en termes de mammifères, d'oiseaux. Donc, au total, si on considère que lorsque nous avons débuté, nous avions des antennes qui étaient situées sur l'Hérault et qui aussi récupéraient énormément d'oiseaux, qui n'ont pas été comptabilisés dans cette base de données. Nous étions proches des 12 000 individus et nous en avons relâché plus de 40%. Alors c'est vrai que, comme je le dis, 40% sur 12 000, bon, à l'échelle du temps, c'est pas quelque chose d'énorme. On peut même considérer, en dehors des espèces patrimoniales et très rares, que c'est quelque chose qui est pas très très important. Mais je crois que le rôle du centre en matière de biodiversité, il va bien au-delà, parce que au travers de toutes ces actions indirectes, ben, il contribue à une prise de conscience. Et c'est ça qui moi, me semble actuellement le plus important pour arriver à régler, non pas régler le problème à l'échelle mondiale, mais à motiver de plus en plus. Donc cette action qu'on mène, elle est à la fois le révélateur et le déclencheur, puisqu'elle fait prendre conscience aux gens de la fragilité de cette biodiversité, de son effondrement et des possibilités que tout un chacun en a, à notre échelle, d'agir en sa faveur. Donc la motivation, ça c'est un élément très important, la motivation de tous les gens qui récupèrent un animal et nous appellent, la motivation de tous les gens qui nous aident à accomplir cette tâche, que ce soit les bénévoles, les salariés, et puis la motivation bien sûr de tous ceux qui nous servent de relais comme vous, pour faire passer ce message de façon à ce que le plus grand nombre soit porteur d'une nouvelle approche de la biodiversité. À partir de là, ce qu'il faut faire pour y arriver, ben, il faut avoir bien sûr des connaissances de terrain. Donc là aussi, le rôle du centre est primordial. Nous pouvons aussi conseiller les gestionnaires de la protection ou de la sauvegarde de ces biotopes et de ces milieux. Alors là, je vois qu'indirectement, nous pouvons agir, par exemple, pour ce qui est du développement de tourisme de pleine nature. Et nous y travaillons, puisque nous faisons aussi partie de certains organismes qui ont les pouvoirs éventuellement de décision. Il faut savoir que les activités dites sportives ou naturelles de loisirs peuvent avoir une énorme influence sur la préservation des milieux naturels et donc sur les espèces qui y vivent. Et à partir de là, je crois que la gestion rationnelle de ces habitats est quelque chose de très très important. Les activités donc sportives, il est évident, pour être plus concret, que les gens veulent faire de la randonnée, et je pense que de la randonnée pédestre, et c'est logique, mais il y a aussi des gens qui veulent faire de la randonnée en vélo, après tout, pourquoi pas. Il y a des gens qui veulent la faire à cheval, d'autres en VTT, etc. Et il faut que chacun comprenne que on ne peut pas toujours faire tout en même temps au même endroit, et qu'il y a des lieux où on peut faire certaines choses, et des lieux où on ne peut pas. Et ça, c'est tout un travail pédagogique. Je pense que là-dessus, le rôle du parc naturel régional et des parcs naturels régionaux ou des parcs nationaux ou des structures qui sont chargées de la mise en place de ces règles, entre guillemets, ont un rôle primordial à jouer, mais on peut nous avoir un rôle de conseil. Je pense en particulier, pour tout ce qui touche à la fréquentation humaine, à la quiétude de certains animaux qui sont des espèces en danger de disparition, notamment au niveau de leur reproduction. Donc là, c'est quelque chose qui se fait déjà, hein, en particulier le parc national des Cévennes a mis en place des secteurs sur lesquels, en fonction de la période de reproduction, on ne peut pas faire certaines activités qui pourraient être dérangeantes pour la reproduction de ces espèces. Ça, c'est un élément concret. L'utilisation de certains sentiers de randonnée pour des compétitions qui ont lieu pendant ces périodes de reproduction est aussi quelque chose qu'il convient de gérer. Indirectement, je dirais que l'action du centre de sauvegarde, en dehors du fait de traiter des espèces animales qui sont vraiment en difficulté, c'est aussi un rôle très 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 important.
Alors monsieur Ostruy, je vous propose de faire une petite pause musicale pour reprendre juste après. Chères auditrices, chers auditeurs, toujours sur Radio Sainte-Afrique pour la suite de l'émission La Plume. Une petite question, monsieur Ostruy. Portez-vous une certaine inquiétude pour l'avenir ?
Alors, je vais dire à la fois oui et non. Alors, oui, parce que le constat est effectivement accablant, surtout si on considère que la sonnette d'alarme elle a été tirée il y a déjà 50 ans. Alors, c'est quelque chose de compliqué, parce que effectivement, on voit assez mal comment la démographie, à l'heure actuelle, va pouvoir se stabiliser à l'échelle de la planète. L'état des lieux, il a été fait, et il est catastrophique, c'est évident. Mais si on analyse le fait qu'on peut dire qu'il y a trois grands groupes de pays ou dans le monde entier, il y a les pays développés, où la course au profit et à la consommation est presque toujours aussi effrénée. Et il y a les pays sous-développés qui ont le plus souvent bien d'autres soucis que celui de se préoccuper de la préservation de la planète, voire de la biodiversité. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'on a des raisons d'être inquiets. Par contre, bon, on s'aperçoit que quand même, le plus souvent, lorsque l'homme est au bord du gouffre, eh bien, il arrive à se raccrocher. Donc ça, ça pourrait être le bon côté des choses. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même protéger cette biodiversité, même si ça peut être fait de la même façon partout, c'est quelque chose qui est réalisable. À condition que tous ensemble, ben, nous sachions lever la main pour dire stop à des pratiques qui sont nocives à l'échelle planétaire. Que nous sachions jouer de la solidarité pour une cause qui finalement nous concerne tous. Donc à partir de là, je crois que le changement climatique, qui est un révélateur, permet d'avoir des avancées. Alors je ne dis pas qu'on est au bout, mais on avance tout doucement. Et moi, ce que je pense, c'est que effectivement, les pays qui sont développés et qui en ont les moyens sont effectivement ceux qui ont la plus grande facilité pour commencer à donner l'exemple et à gérer certains problèmes, comme par exemple celui de la déforestation. Mais il faut que ça se fasse à l'échelle mondiale, encore une fois. Et je pense aussi aux consommations de certaines espèces de poissons dans les océans. C'est évident que là aussi, il y a des choses à faire, mais ça ne peut se faire qu'au niveau mondial. Et il faut bien sûr aider les pays qui peut-être ont beaucoup moins de moyens que nous à franchir le pas aussi et à essayer, avec leurs petits moyens à eux, de faire en sorte qu'ils contribuent à ce challenge au niveau mondial. Et moi, je crois que, au-delà de la simple raison qui fait que sans biodiversité, l'homme disparaît, c'est évident, la nature ne peut être préservée que si nous considérons qu'elle n'est pas un objet de consommation ou de profit. Ça, c'est ce qu'il faut changer dans la mentalité de la plupart des gens. Et puis, nous devons lui manifester du respect, à partir de là. Et pourquoi pas de l'amour, car finalement, la nature est belle et on a besoin d'elle.
Merci Monsieur Ostruy de nous avoir donné des informations concrètes concernant la biodiversité et d'avoir représenté votre centre. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle édition de La Plume sur Radio Sainte-Afrique.
La Plume. La Plume. La Plume. L'émission du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage Cossenard.